Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer aux paveurs et maçons migrants de la basse marche. Pour cette séquence, nous avons fait appel aux auteurs suivants, Colette Marceau, les migrants paveurs de la basse marche. Colette Marceau est un écrivain de la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles, dont nous aurons l'occasion de reparler. Marie-Claude Maillas, les maçons marchois. Georges Drouot, sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Et Louis Peignot, un extrait de son roman « Le bal des conscrits ».
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons suivre François Noussa, qui est un maçon migrant de Saint-Pardoux. François Noussa, originaire donc de Saint-Pardoux, dès sa 15e année, était venu à Paris avec ses aînés, les maçons du Limousin. Chaque hiver l'avait ramené au pays, chaque printemps lui avait fait reprendre le chemin de la capitale jusqu'au jour du service militaire, puisque défavorisé par le sort, il avait tiré un mauvais numéro. C'était l'époque où la loi avait rendu obligatoire les livrets ouvriers. Le 30 avril 1855, le maire de Saint-Pardoux convoqua tous les émigrants de sa commune pour leur distribuer les livrets reçus de la préfecture. Parmi ces émigrants, il y avait François Noussa. Vers 1855, la commune de Saint-Pardoux comptait 1383 habitants. Et en mars 1856, 113 d'entre eux vinrent chercher leurs livrets ouvriers. Il s'en ajouta 35 l'année 1857, 34 de plus en 1858, 30 en 1859, etc. Sur les 113 partants de 1856, 31 avaient de 16 à 20 ans et 8 avaient moins de 16 ans. C'est Louis Peignot qui nous donne ces informations dans le bal des conscrits. L'émigration des maçons marchois est fort ancienne. En voici quelques exemples, nous puisons les informations dans le texte de Marie-Claude Maillas. L'épisode le plus célèbre est celui des travaux du siège de La Rochelle. C'est ainsi que le 24 mars 1628, le maréchal de La Rochelle écrit au lieutenant général et le remercie de lui avoir envoyé des maçons limousins pour les travaux du siège. Au milieu du XVIIe siècle, on trouve un Antoine Bergeron, originaire de Pionnat dans la Creuse, maître général des œuvres du pavé du roi, ponts et chaussées de France, et un Pierre Bergeron, entrepreneur des bâtiments du roi. Lors de la construction de Versailles, on évalue la colonie de maçons limousins qui, au total, aurait participé aux travaux du château à 32 000 hommes.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
En 1691, on rencontre des maçons limousins aux fortifications de l'île d'Oléron, puis à celle d'Embrun. Au XIXe siècle, on peut lire dans l'annuaire de statistiques de la France de 1808 qu'il sort annuellement des parties monteuses des arrondissements de Limoges et de Bellac de 8 000 à 9 000 maçons qui vont travailler dans les départements de la Seine, du Rhône, du Léman. Mais c'est surtout à compter des années 1835, avec la reprise de la construction de monuments en souffrance dans la capitale, comme l'Arc de Triomphe, l'église de la Madeleine, le palais d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, que cette émigration va s'installer comme une pratique ordinaire chez les paysans marchois. Et la chanson ne donne-t-elle pas une idée de la liste des monuments construits par nos maçons ? Voyez le Panthéon, voyez les Tuileries, le Louvre et l'Odéon, le palais d'industrie. En 1855, on compte 4923 maçons migrants dans les cantons de notre basse marche. 321 à Bellac, 1051 à Château-Ponsac, 237 à Mézières-sur-Issoire, 248 à Nantes, 285 à Saint-Sulpice-les-Feuilles, 1075 à Bessines, 915 à Magnac-Laval et 791 Haut d'Or. Il y a les maçons, mais il y a d'autres migrants. Monsieur Leroux, dans son inventaire des archives départementales de la Haute-Vienne, écrit « Au Moyen-Âge, le travail industriel et agricole était rare en Limousin et ne retenait aux champs qu'une faible partie de la population. Le reste se faisait nomade pour y vivre plus sûrement et quêtait de lieu en lieu ses moyens d'existence. Colporteur, roulier, petit marchand, compagnon de métier, allaient de ville en ville offrir leurs bras et leurs services. Parmi les migrants de la basse marche, on trouvera des ouvriers agricoles, des sabotiers. À propos de ces migrants, Pierre Robert, le lieutenant général de la Sénéchaussée du Dorat, précise que dans la première moitié du XVIIe siècle, bien des familles envoient aucun de leurs 10 enfants aux maçons et à l'emploi de la maçonnerie vers Paris et le pays de France. Le pays de France, c'est l'île de France. Et les autres, en Bas-Poitou, vers le pays d'Aunis, de La Rochelle, de Brouage, de Saint-Onge et vers la Gascogne. Ils en envoient d'autres faire des sabots dans le Berry et l'Angoumois. Ceux qui vont faire de la maçonnerie partent vers la mi-mars et reviennent à la Saint-Michel pour la Toussaint. Ceux qui vont faire des sabots partent à la Saint-Michel et reviennent quand il faut moissonner et faucher les prés, dont ils rapportent beaucoup de commodités et d'argent, soit pour payer leurs tailles et dettes et à faire d'autres affaires. Il ajoute que d'autres, en particulier dans la région de Blon et de Mortemar, partent, eux, dans toute la France et même en Espagne pour moissonner, pour faucher, labourer, cultiver la vigne et faire tous autres négoces de jardins et des champs, comme aussi accommoder les étangs, faire viviers, canaux, fossés, garennes. Il y a aussi d'autres métiers du bâtiment. Si en 1855, en basse marche, on compte, nous l'avons dit, 4923 maçons, on trouve aussi 186 charpentiers, 91 tailleurs de pierre et 472 paveurs. Et pour l'essentiel, ces paveurs viennent de la zone de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Dans son étude « Les migrants paveurs de la basse marche », Colette Marceau nous explique qu'en 1740, les paveurs d'Arnac-la-Poste s'associent pour entreprendre le pavage de Bordeaux. Au XIXe siècle, ajoute-t-elle, les migrants limousins, paveurs compris, participèrent aux grands travaux d'Haussmann. En 1837, les jeunes quittaient le pays dès l'âge de 12 ans. À l'époque de la conscription, ils avaient économisé de 1500 à 1800 francs et certains paveurs qui tiraient le mauvais numéro pour le service militaire pouvaient même s'offrir un remplaçant, comme l'attestent des actes notariés. Pourtant, nous dit-elle, c'est le XXe siècle qui connut la plus forte émigration facilitée par le développement du chemin de fer et la progression de l'urbanisation, notamment à Paris. Mais c'est aussi au cours de ce siècle que le pavage des rues disparut progressivement au bénéfice des rues goudronnées.
Hardi maçon, du cœur vite il nous faut partir, traverser du pays, chercher de l'ouvrage et gagner notre vie, et gagner notre vie. Adieu mon père, adieu ma mère, adieu parents, adieu maîtresse. Pour la dernière fois je vous parle aujourd'hui, adieu mon très cher fils, adieu, adieu, il te faut donc partir, il te faut donc partir.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Le départ, c'est une grande aventure. Mais pourquoi partait-il ? Aventure, nous dit Louis Peignot dans le bal des conscrits, qui commençait dès que sur nos collines, dans le ciel de mars, passait le triangle des grues. Messagères du départ et des séparations douloureuses, elles étaient entendues dans tous les foyers du pays des bruyères et des étangs. Sur les peaux de Masser, comme sur les collines de Châtenay-Colomb ou de Montaigu. tous les hommes, occupés à remonter quelques murailles écroulées entre deux champs de seigle, levaient vers le ciel encore pâle leurs regards résignés. Partir d'ici peu de jours, partir pour 8 mois, et cette fois, creuser au foyer le plus pénible des vides, emmener le petit qui venait d'avoir 14 ans. Pourquoi partait-il ? Des vaches, il n'y en avait que 3. Un peu de blé, un peu de rien. Des pommes de terre, enfin de quoi pour une personne, pour 2 personnes. Mais ça ne permettait pas de faire vivre une famille. Et les pommes de terre, c'était aussi pour nourrir le cochon. Oh, il y avait aussi du colza et un peu de saloperie comme ça. Mais c'était pour une famille de 2 seulement. Donc, il fallait partir. Moi, je suis d'abord parti domestique de ferme, mais ça payait pas. Alors je suis parti maçon à Paris. Mes sœurs, elles aussi, sont parties domestiques. C'est en substance ce que répondait en 1971 Monsieur Cardinal, un ancien maçon migrant de Chasseneuil dans la commune de Rancon, à Marie-Claude Maillas. On le voit donc, la première raison de cette émigration est économique. C'est la misère qui pousse nos compatriotes à émigrer. Il en va de même pour les paveurs de la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Colette Marceau nous indique: la pauvreté des sols, la rigueur du climat, le manque d'industrie imposèrent très tôt aux hommes l'abandon des terres à la belle saison afin de se procurer un revenu supplémentaire qu'ils rapportaient en hiver. Ils se déplaçaient en même temps que les oiseaux migrateurs, ce qui leur valut d'être appelés hirondelles par les journalistes et écrivains à différentes époques. Le revenu financier qu'ils ramenaient de leur campagne était employé à acquitter les impôts fonciers, à payer les dettes et les emprunts souvent contractés à des taux usuraires atteignant parfois 30%.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Il fallait aussi, pour le jeune qui avait hérité de la maison familiale et des terres, dédommager ses frères et ses sœurs. Enfin, l'objectif était de faire l'acquisition de quelques parcelles agricoles afin d'agrandir la propriété et de limiter ainsi le coût des fermages. Mais l'auteur du mémoire « Les maçons marchois » trouve 2 autres causes à ses départs. Des causes sociologiques. Des enfants qui n'héritent pas sont condamnés à devenir ouvriers agricoles. Le seul moyen pour eux d'échapper à cette condition, c'est l'émigration. Et des causes psychologiques. Elle nous cite à nouveau M. Cardinal de Rancon qui lui déclare qu'il en a marre de la terre et décide de partir pour gagner davantage d'argent. Le départ n'est plus vécu comme un arrachement à la terre et à la famille, mais au contraire comme l'espoir de vivre mieux. Elle cite également M. Dubois, un ancien maçon migrant de Saint-Amand-Magnazé, qui lui aussi quitte le travail de la terre sans regret, car c'était un travail trop pénible, sans repos, et pour lui, sans avenir. Une nette évolution de la mentalité a donc transformé l'émigration de nécessité subie en nécessité voulue. En somme, émigrer, c'est presque entrer dans la modernité.
À mon maçon joli, travaille sur cette pierre. En levant mon blanc jupon, tu verras la carrière.
Nos maçons migrants partent pour Bordeaux, pour Lyon, mais surtout pour Paris. Au départ, qui avait lieu au mois de février ou mars, les plus jeunes étaient intégrés dans le groupe qui partait de chaque village et grossissaient en cours de route. On suivait le même chemin que les vieux suivaient à chaque voyage, s'arrêtant aux mêmes auberges, après les mêmes étapes de 70 à 80 km. La troupe se choisissait un trésorier, le meilleur marcheur, expérimenté et débrouillard, qui devait précéder le groupe au gîte, débattre des prix, faire préparer les repas et essayer d'arriver avant les autres groupes de migrants qui marchaient dans la même direction. En chemin, les relations avec la population des pays traversés étaient déterminées par le sentiment et l'orgueil d'appartenir à tel village, à telle région ou à tel corps de métier. Et la tradition voulait que chacun soutienne sa réputation dans des bagarres très violentes au temps où les compagnonnages avaient encore toute leur puissance. Elles étaient ensuite devenues ritualisées, c'est-à-dire réduites à un schéma auquel on se soumettait sans le conduire à son terme. mais elle contribuait à maintenir l'esprit d'appartenance à un groupe. Cette rivalité, qui ne trouva plus à s'exprimer pendant le voyage, se poursuivit longtemps à Paris. Concernant les paveurs, Colette Marceau nous indique: les migrants partaient à pied, par bandes, logeant chaque année dans les mêmes maisons d'accueil. Il existait à Saint-Sulpice-les-Fats une association de paveurs qui tenait ses assises le jour de Pâques chez Madame Dagneau. Ainsi, les nouveaux et les anciens partaient à pied sur une route jalonnée par la présence d'une mère qui les recevait et préparait leur repas. À noter que les paveurs, comme les maçons, avant leur départ, le 2 février, participaient au pèlerinage des maçons limousins à la chapelle de Sauvagnac pour se placer sous la protection de la Vierge. Mais d'autres, Saint-Léger-la-Montagne, à Fromental, à Morterolles ou à Saint-Amand-Magnazet, se plaçaient sous la protection de Saint-Roch. Pour leur premier départ, les familles offraient aux plus jeunes un costume de droguet issu de la laine des moutons et une paire de chaussures, neuves si possible. Chaussés de gros souliers vernis, un baluchon pour tout bagage, avec les gars de son village, il allait à pied à Paris. « Allez Martin, presse le pas, dépêche-toi, voici l'aurore, et marche, marche, marche encore, on a besoin de toi, là-bas. »
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Les hommes partaient avec un maigre baluchon sur le dos et emportaient une somme d'argent pour faire face aux frais du voyage et aux premières dépenses en arrivant sur le lieu de travail. Martin Nadeau, lui, précise: à cette époque, une grande animosité prévalait entre tous les métiers. Suivant une habitude séculaire, les compagnons de tous les devoirs ne se rencontraient jamais sur les routes sans s'assommer à coups de canne. Et Roger Drouot, dans sa monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, de signaler qu'en avril 1756, en se rendant à Paris, un paveur migrant fut blessé mortellement à Olivet, près d'Orléans, dans une rencontre avec des compagnons charpentiers. Cela explique que la canne de ces migrants était muni d'un pommeau métallique lourd qui permettait de se défendre. Par la suite, certains migrants prirent des patâches à Orléans. Ces patâches étaient des voitures à cheval qui les conduisaient à Paris. L'arrivée du chemin de fer va rendre moins pénible le trajet vers la capitale. Le départ s'effectue toujours vers la même époque, mais chacun part selon son gré, sans se soucier des autres, et les hommes mariés peuvent emmener leurs femmes.
Mains cimentées sur la truelle, la gale et les intempéries, l'eau jour échauffait la gamelle, du lundi jusqu'au vendredi. Ainsi s'enchaînaient les saisons, le vent, le soleil et le froid. Si on pouvait faire des maisons en bâtissant d'abord le toit. Si on pouvait faire des maisons en bâtissant d'abord le toit.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Parlons maintenant de l'installation à Paris. Monsieur Cardinal, le maçon migrant de Rancon, nous explique: pendant une période de transition, il logea d'abord chez sa tante, puis dans une espèce de baraque. On couchait à peu près à l'état de bétail. Les maisons n'étaient pas reconstruites après la guerre, c'était tout écrasé. Alors c'était des baraquements. On était au moins 6, peut-être même plus. On était au moins 10 par chambrée. En fait, on couchait dans des sacs à bidoche. Il y avait une cantine, alors on mangeait à la cantine. Par la suite, il va habiter quai des Célestins dans un hôtel où ne vivent que des maçons qui, de surcroît, sont tous originaires de la Haute-Vienne. Et Marie-Claude Maillas d'ajouter: les maçons migrants se regroupent donc à l'intérieur du triangle délimité par l'hôtel de ville, la Seine et la rue Saint-Antoine, et habitent des garnis tenus par la veuve ou la femme d'un maçon ou par un ménage de Limousin, des gens qui avaient commencé comme maçons. Là, ils prennent leur repas et dorment dans des chambres de 4 ou 5 lits, couchés 2 dans chaque lit. Ce regroupement s'opérait généralement lorsque l'émigré était arrivé à Paris, au hasard des relations nouées sur les chantiers. Il arrivait aussi qu'il soit prévu avant le départ, par l'intermédiaire de maçons qui rentraient. La communauté pouvait prendre en charge également, sur le plan matériel, les nouveaux arrivants ou les chômeurs momentanés. Colette Marceau donne d'autres précisions. Les chambres garnies sont sales. Rien n'afflige plus un pauvre étranger que de voir des lits malpropres, des fenêtres où siffle le vent, des tapisseries à demi pourries, un escalier couvert d'ordures et d'animaux incommodants. Elle ajoute que les conditions d'hygiène sont déplorables, qu'il y a un cabinet d'aisance pour 60 personnes. Dans les chambres, le mobilier offert se réduisait à un ou plusieurs lits. Les vêtements étaient accrochés à un clou ou posés sur une corde. En effet, rares étaient ceux qui possédaient une petite malle pour leurs effets.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Concernant l'embauche et le travail à Paris, écoutons toujours Colette Marceau. Au niveau de l'emploi, les paveurs avaient en principe des filières qui leur assuraient l'embauche dès leur arrivée à Paris. Cependant, pendant de longues années, la place de Grève a été le lieu d'embauche par excellence. Un règlement des registres de police du Châtelet, daté de 1727, fixe les modalités du rassemblement des ouvriers. Les maçons, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre, appareilleurs, terrasseurs, manœuvres et autres personnes nécessaires pour les 10 bâtiments se trouvent tous les matins dès les 4 à 5 heures à l'entrée de la place de Grève du côté de la rue de la Basse-Tannerie. Les paveurs, travaillant en relation avec le bâtiment, étaient concernés par ce règlement. Monsieur Dubois, maçon migrant de Saint-Amand-Magnazet, à Paris en 1922, nous explique. Pour se faire embaucher, nous avions une place où les garçons maçons devaient se rendre. Ils se rendaient à cette place qui s'appelait la place de Grève. C'était le compagnon plâtrier qui venait chercher son garçon maçon. C'était un peu comme un marché. Aussitôt qu'on était embauché, il fallait arroser cette petite affaire-là et la goutte offerte par le compagnon scellait en quelque sorte leur association. Le travail du garçon était d'aider au maçon pour qu'il apprenne s'il voulait apprendre. En quoi consistait cette aide? Il devait principalement battre et gâcher le plâtre, aller chercher l'eau, mettre le plâtre dans l'eau et le monter sur les échafaudages. La difficulté était de grimper assez vite pour arriver aux étages élevés avant que le plâtre ne soit pris. Sinon, il était inutilisable. Pour devenir compagnon maçon, il faut au minimum un an d'apprentissage. Mais M. Cardinal de Rancon nous dit qu'il fut engagé comme compagnon après 3 ans de pratique. Le compagnon maçon doit ensuite acheter ses outils, puis embaucher son garçon et lui payer la goutte. Et M. Cardinal d'ajouter « Je faisais du plâtre, après j'ai fait du stuc, mais il y avait les limousinants. Le maçon, c'est celui qui monte les murs, on dit un limousinant. C'est le maçon en somme, puisqu'à Paris, le maçon... c'est celui qui fait le plâtre. » Et M. Dumais, lui aussi de Rancon, ajoute « Le limousinant, c'est les maçons et les plâtriers. » Au lieu de dire les maçons, on disait les limousinants pour les séparer des plâtriers. Les plâtriers étaient payés davantage. Il y a ensuite dans la hiérarchie les maîtres compagnons désignés chefs de chantier par les patrons. La journée de travail était généralement de 10 heures. On travaillait également le dimanche matin. Monsieur Dumais de Rancon nous explique qu'il travaillait 10 heures par jour et qu'il recevait 2 francs de l'heure, soit donc 20 francs par jour. Il fallait prévoir 2 francs 50 pour le casse-croûte, 5 francs pour le repas de midi et 5 francs pour celui du soir. Il lui restait donc 7 francs 50 pour la chambre, l'habillement, etc. Difficile, dans ces cas-là, d'économiser beaucoup pour ramener en basse marche. La démarche est la même chez les paveurs. Les jeunes de 14 à 15 ans débutaient comme mousses. Ils aidaient les paveurs chevronnés et faisaient réchauffer la gamelle à midi. Ensuite, ils devenaient garçons. Ils s'occupaient du sable que l'on étalait pour poser les pavés. Puis ils devenaient compagnons. Dans tous les cas, les paveurs travaillent à la tâche. Sur un pavage mosaïque, il doit couvrir 3 mètres carrés à l'heure. S'il fait plus, il est mieux payé. Concernant les techniques du pavage et les outils du paveur, nous conseillons à nos auditeurs la lecture de l'ouvrage de Colette Marceau, Les migrants paveurs de la basse marche.
Je regarde pour me distraire les travaux qui ne vont guère, mais ce qui fait mon bonheur, c'est de contempler le paveur. Ce paveur.
La vie à Paris. Voici ce qu'on peut lire dans l'ouvrage Les migrants paveurs de la basse marche. Pendant les rares jours de repos, les marchois jouaient aux cartes, se promenaient, fréquentaient les cabarets, les auberges et les boutiques de marchands de vins et de bières. Mais ces rassemblements ont toujours inquiété la police qui craignait à juste titre les rixes, les actes de violence. À noter qu'après 1830, le dimanche cessera d'être obligatoirement chômé. Il le sera à nouveau qu'en 1906, après les lois de séparation des églises et de l'État. Au niveau relationnel, si les Parisiens n'excluaient pas les migrants limousins, ils les considéraient comme violents, durs à la besogne et frustes. L'annuaire de 1837 indique que dans toutes les grandes villes où les émigrants travaillent, ils forment une espèce de république et de population isolée. Il faudra attendre la fin du siècle et surtout le début du XXe siècle pour les paveurs pour que l'intégration réussisse. S'ils constituaient une république isolée, ils avaient su tisser entre eux des liens très forts de solidarité. C'est particulièrement vrai pour les paveurs et leur société de secours mutuel. En effet, les paveurs de la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles inventèrent la sécurité sociale avant l'heure.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous empruntons les informations à Georges Drouot et à Colette Marceau. Jusqu'en 1945, qui vit naître la loi de création de la sécurité sociale, la condition ouvrière ne bénéficiait d'aucune protection sociale. En cas de maladie ou d'accident du travail, l'ouvrier devait puiser dans ses économies ou faire appel à la solidarité familiale. Aussi, on comprend pourquoi se développèrent les sociétés de secours mutuels créées par la loi du 5 juillet 1850 qui les place sous la protection et la surveillance des autorités municipales. Dès 1848, Monsieur Gentil, originaire de Saint-Léger-Magnazet, créa la Société de secours mutuel des ouvriers paveurs de Paris, dite de Saint-Roch, dont la plupart des adhérents étaient issus du nord de la Haute-Vienne. Ce sont ces sociétés qui plus tard donneront naissance à la mutualité de la Haute-Vienne. Pour devenir membre de la Société de secours mutuel des ouvriers paveurs, il fallait avoir entre 16 et 35 ans. Fournir un certificat de bonne vie et mœurs, ne pas avoir subi de condamnation judiciaire de nature à flétrir l'honneur et la probité, jouir d'une bonne santé et d'une bonne constitution, s'acquitter de sa cotisation, 2 francs en 1879 qui passeront à 3 francs en 1904, plus un versement mensuel de 1 franc 50. À noter qu'il fut décidé de supprimer le dîner des apprentis et de faire verser 150 francs par chaque apprenti dans la caisse commune qu'il pouvait payer en plusieurs fois. Alors quels étaient les services rendus par la société ? Un congé maladie, sous réserve de stricte vérification. L'ouvrier malade recevait 2 francs 50 par jour d'absence. La prise en charge des honoraires des médecins dans une fourchette comprise entre 3 et 4 francs par consultation. Le versement d'une rente en cas de longue maladie ou d'inaptitude au travail. Et Colette Marceau nous signale que M. Albert Pénaud d'Arnac-la-Poste a conservé des coupons correspondant à des mandats de versement de pension jusqu'en 1962. Une somme de 100 francs pour les frais d'inhumation en cas de décès avec un corbillard de 7e classe, dit corbillard des pauvres, recouvert d'un drap rouge bordé de noir et la présence obligatoire des sociétaires avec la bannière vert et or. Tout sociétaire convoqué qui n'assistait pas aux obsèques devait acquitter une amende de 3 francs. Les adhésions furent très vite très nombreuses et au total ce sont 2288 paveurs issus essentiellement des cantons de Saint-Sulpice-les-Feuilles et de Magnac-Laval qui sont devenus sociétaires. La gestion de la société de Saint-Roch était particulièrement rigoureuse. L'assemblée générale qui se tenait à l'auberge du paveur à Saint-Sulpice-les-Feuilles élisait un bureau chargé de gérer les fonds, les biens et les services et de faire respecter un règlement particulièrement strict. C'est ainsi que l'injure ou les faux rapports entraînaient des amendes et des exclusions s'il y avait récidive. Il semble bien que la dernière assemblée générale de la Société de secours mutuel se soit tenue en août 1941 à Saint-Sulpice-les-Feuilles, la société ayant pourtant continué de verser des prestations jusque dans les années 1960. Une autre société, fondée par M. Lamarguerite de Château-Ponsac, appelée La Gartempe, jouait également un rôle important pour les demandes d'embauche et de logement, mais encore en cas de décès ou de maladie.
petites et grandes histoires de la basse marche.
La fin des migrations et les conséquences. Pour les maçons migrants, la nature même des migrations va changer avec l'installation de la famille conjugale à Paris. Le mari travaille comme compagnon maçon et l'épouse comme couturière, comme concierge, comme femme de ménage. Chez les maçons, l'objectif est rarement l'installation définitive. C'est au contraire de mettre le plus d'argent de côté pour revenir au pays, pour s'acheter de la terre et construire une maison qui sera le témoignage de leur ascension sociale et de leur libération de la servitude paysanne. On verra ainsi M. Dumais, maçon migrant de Rancon, faire transporter les matériaux nécessaires à la construction de sa maison, Paris, au Moulin d'Ardan, dans la commune de Rancon. Cela lui revient moins cher et ils sont de meilleure qualité, dit-il. En fait, il veut construire une maison cossue, comme celle des villes, une maison moderne qui n'a rien à voir avec les fermes de chez nous. La maison est l'expression de la réussite sociale. Ajoutons que selon plusieurs auteurs, ce sont les sommes rapportées par les émigrants qui ont permis les réorientations de l'agriculture et son développement vers la fin du 19e siècle. Il semble que les choses soient un peu différentes chez les paveurs. D'abord, leur émigration se prolongera, ils exercent une profession très spécialisée, ils vont devenir maîtres paveurs, puis créateurs d'entreprises, avant de résider définitivement en région parisienne. Pour la plupart. C'est ainsi que vers 1945, autour de Paris, environ 80% des entreprises de voirie et de travaux publics étaient d'anciennes entreprises de pavage issues du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles et des communes environnantes. Dans son ouvrage sur les paveurs migrants, Colette Marceau en recense 32.
Ils s'en vont à Paris, en Bourgogne, en Champagne. Lyon, Bordeaux, même ailleurs, ils ont la main calleuse. Ce sont des travailleurs, les maçons de la Creuse.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que nous avons consacrée aux paveurs et maçons migrants de la Basse Marche. Nous avons bien conscience de n'avoir qu'effleuré le sujet. Il faudrait encore traiter de l'influence de ces migrations sur le syndicalisme, sur l'éducation, sur la culture, sur les pratiques sociales. Nous le ferons sans doute au cours de compléments de l'année 2016. Pour les textes, nous avons pioché dans les ouvrages de Colette Marceau, de Marie-Claude Maillas, de Georges Drouot et de Louis Peignot. Pour les accompagnements musicaux, nous avons utilisé le duo Lagrange-Rukowski, Yvon-Étienne et surtout les chants et musiques de l'imaginaire creusois, dont nous avons entre autres extrait la célèbre chanson des maçons de la Creuse, œuvre de Jean Petit, dit Jean Dubouet, maçon migrant de l'âge de 16 ans et originaire de Chénérailles en Creuse. C'est cette chanson que nous écoutons en ce moment.
Ses ponts et ses canaux de la Saône et la Meuse.
Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Malgré leur dur labeur, en travaillant ils chantent. Ils ont la joie au cœur et l'âme bien contente. La dernière saison est pour eux bien flatteuse. Pour revoir leur maison au pays de la Creuse.